Nous allons parler d'espace de travail, d'innovation et des nouvelles méthodes d'aménagement. Et nous serons avec Clark Elliott de CB Richard Ellis, qui est un spécialiste de ce domaine et qui a exercé son savoir dans de nombreuses grandes entreprises et multinationales, notamment aussi ici à Genève. Bonjour Clark Elliott. Vous êtes un spécialiste des aménagements de bureaux, mais sous quel angle travaillez-vous principalement, puisque c'est aussi une question de design, mais aussi peut-être comme un anthropologue, un ethnologue, un psychologue. Quelle est la spécialité principale, la discipline à laquelle vous faites appel tout d'abord dans l'étude, dans l'appréhension des espaces de travail?
Je dirais design, c'est la chose qui arrive tout à la fin. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises cherchent pas de commencer une discussion pour un nouveau bâtiment ou pour la conception de locaux avec une vision de leur fonctionnement. Moi, j'ai utilisé le mot fonctionnement de base pour décrire tout ce qui est les stratégies d'environnement de travail. Et j'utilise aussi le concept environnement de travail de prendre en charge tous les éléments sur le plan humain, sur le plan technologique et sur le plan esthétique, bien sûr. Mais l'idée, c'est que l'environnement de travail actuel utilise tous les éléments possibles pour favoriser l'innovation et collaboration.
Alors depuis la révolution industrielle, l'aménagement des espaces a extraordinairement évolué. Au départ, il était question de bureaux fermés, même très jalousement fermés, pour évoluer vers des environnements très ouverts. Quelle est la tendance actuelle?
La tendance actuelle, c'est de moins en moins de bureaux fermés, de plus d'espaces ouverts, mais des espaces ouverts bien faits. Souvent, on pose la question, est-ce que vous croyez que le open space, l'espace ouvert est bien? Et souvent, je dis, c'est quoi ça? Parce que si on prend une salle de conférence et on met 5 tables et 5 collaborateurs et des collaboratrices, c'est pas de vrai bureau, environnement de travail, open space. Mais si on peut créer un environnement riche en ressources, avec des coins pauses, avec des cabines téléphoniques, avec des points de rencontre, avec bien sûr des tables de travail, des PC, mais avec les sans-fil, on a plein d'opportunités pour réinventer le bureau et de mettre ensemble ces éléments pour mieux soutenir le travail actuel.
Et qui dicte les tendances? Est-ce que c'est une mode comme dans l'habillement, ou est-ce que il y a des gourous réguliers qui nous proposent des nouveaux espaces, ou est-ce que cela dépend, est-ce que c'est lié par exemple au développement économique avec des périodes de récession dans lesquelles on s'occuperait moins de notre espace, des périodes de boom économique dans lesquelles on accorderait plus d'importance? Comment cela se passe-t-il?
Bon, pour moi, c'est pas de mode. Les fabricants, il y a plusieurs grands fabricants de meubles qui sont toujours en train de faire des recherches sur le travail. Ils étudient les façons, je crois. Il y a 5 modèles, les typiques. Il y a des gens comme les petites souris qui mettent des choses à côté. Il y a des gens qui gardent des papiers. Il y a des autres qui n'utilisent presque jamais de papier. Il y a des gens qui sont très collaborateurs dans leur façon de travailler. Et il y a on fait des études comme des anthropologues. Et les grands fabricants de meubles sont les forces et les influences. Ils travaillent avec pas mal de professeurs au niveau universitaire pour étudier le comportement des gens au travail. Les tendances sortent de besoins business et je dirais le mot clé aujourd'hui de business, c'est plus de collaboration et plus d'innovation. Et les meubles de bureau sont même créés avec cette optique en but.
Et comment est défini maintenant comment sont définies plutôt les priorités, puisque le terme de travail est un terme particulier, il englobe beaucoup de fonctions maintenant, puisque le bureau est l'endroit où tout le monde passe le plus de temps pratiquement de sa vie. Donc il y a peut-être une redéfinition du travail dans lequel, à l'intérieur de l'entreprise, il faut également pratiquement inclure le divertissement.
Absolument. Le divertissement, ou je dirais des valeurs humaines présentes en place de travail et des contacts humains. Dans plusieurs projets récemment, j'ai fait une analyse d'un grand bâtiment ici à Genève, et long corridor, porte fermée, et je dis au directeur, j'imagine vous avez des problèmes de communication interne. Et il m'a regardé comme quelqu'un avec une boule en cristal ou en turban sur la tête, et je dis non. J'observe que toutes les portes sont fermées, il n'y a même pas un petit morceau de verre pour voir si la personne est présente ou pas, et j'imagine tout le monde envoie des emails au lieu de voir les personnes en direct. Et il a dit, évidemment, c'est notre problème de base et les gens ne se communiquent pas. En plus, c'est une organisation internationale. Les gens envoient des emails, il y a des ping-pong avec des emails en mauvais anglais parce que c'est la langue des sociétés. Il y a énormément de complications. Il y a une statistique, et là ça sort des recherches de, je crois, la société Herman Miller, un grand fabricant de meubles, que la plupart des réunions, ils ont besoin de 8 minutes ou moins. Ça veut dire qu'on peut résoudre énormément de problèmes dans 8 minutes. Et des jours et des jours, des emails et des réponses et des temps de réponse, c'est une sorte d'inefficacité.
Quand vous pénétrez maintenant en tant que professionnel, dans un bureau, dans une société, vous pouvez déterminer d'après le local dans quel style de direction vous trouvez, plus ou moins despotique, plus ou moins innovateur, est-ce que c'est juste?
Oh, absolument. Et je vais tout de suite vers le coin café ou le coin pause pour observer, parce que la plupart des sociétés constatent que l'être humain, c'est leur bien le plus important, et je regarde souvent un coin café avec une machine minable, avec une qualité de café pas bien, dans un corridor, dans un ancien réduit, je sais pas, nulle part mettre poser le café et mélanger le sucre, et je dis, cette personne constate que l'être humain est important, je m'en doute qu'il est sérieux. Et l'être humain interprète tous ces signes.
C'est peut-être fait de manière, c'est peut-être fait volontairement, parce que si vous aménagez une place de pause trop confortable, peut-être que l'employeur pourrait l'imaginer comme du temps perdu, du temps volé sur son propre entreprise.
Bon, je dirais que l'ancienne génération des dirigeants prend ça peut-être encore, mais c'est une fausse opinion, et ces gens devraient comprendre les bénéfices de collaboration, devraient voir le genre de discussions qui se font autour d'un test de café ou l'eau, le point d'eau, c'est un parfait croisement, et c'est où vous pouvez résoudre en direct des situations sans envoyer des emails, sans convoquer 5 personnes à travers des agendas électroniques pour faire un rendez-vous formel.
Il y a un guide gastronomique français dont les inspecteurs sont connus pour rentrer dans un restaurant et aller voir directement quel est l'état des toilettes et ce qui leur donne, si vous voulez, une bonne image de la gestion du restaurant lui-même. Mm-hmm. Vous, ce serait plutôt le coin pause.
Oh, exactement. Je fais ça et j'appelle ça les baskets sales. Je fais le tour et j'ai une petite photo d'un basket, des chaussures sales, que je colle sur les plans pour montrer les zones où il y a besoin d'une intervention, d'amélioration.
Oui. Alors pratiquement, l'amélioration que vous voulez apporter commence par un diagnostic. Diagnostic est-il établi d'une manière personnelle, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer dans l'entreprise, ou est-ce que vous cherchez à obtenir par les collaborateurs connaître les défauts, les problèmes?
Je fais toujours des consultations. Je commence avec l'équipe directionnelle. Je fais un petit entretien d'une demi-heure. J'ai 10 questions, 12 questions. Mais c'est des questions, rien à faire avec l'espace. J'essaie de déterminer la vision de la direction, les buts de société ou organisation. Je pose des questions sur le bâtiment idéal, dans leurs opinions, et j'arrive à avoir une bonne vision sur le fonctionnement et les dysfonctionnements à travers cet entretien. Et je fais la même chose avec des collaborateurs et des collaboratrices, soit une vingtaine.
Comme de ça, tous les niveaux, vous ne parlez pas aux directeurs.
Oui, mais toujours tous les directeurs, et après un bon mélange de gens dans toutes les équipes.
Oui. Je suppose que par ces interviews, vous arrivez peut-être à distinguer que les collaborateurs peuvent avoir des visions totalement opposées ou contradictoires de l'entreprise, du climat qui règne.
Oui, bon là c'est clair. Ça c'est aussi, je dirais, une source de richesse, parce que la diversité c'est un élément que de plus en plus, surtout les multinationaux, les grandes organisations, favorisent cette diversité culturelle. Mais la diversité d'opinion, je dirais, il y a l'espace pour tout le monde dans l'espace. Et les solutions actuelles favorisent une diversité des espaces aussi.
Et quelle influence a, par exemple, la volonté de productivité par rapport à celle de maintenir des contacts agréables, une ambiance de bonne collaboration? Puisque peut-être, si on peut citer la période actuelle où l'on cherche toujours des économies, toujours à faire travailler les personnes plus vite, comment ce besoin de productivité va-t-il de pair avec l'amélioration de nos rapports?
Moi, je dirais que c'est très très important de mesurer les résultats. Il y a l'ancienne école de direction qui pense si Georges est à sa place entre 8h30 et 17h30, c'est tout ce qu'il faut mesurer. Aujourd'hui, à l'âge d'Internet, avec tous les outils que nous avons, surtout que nous avons des renseignements directs sur chiffre d'affaires, pourcentage de marge, etc., etc., le but d'un manager aujourd'hui, ou le rôle d'un manager aujourd'hui, c'est de coacher, pas de contrôler. Et dans cette optique, votre commentaire sur les machines à café ou les zones pause, la zone pause est une source de collaboration dans la plupart des entreprises. Et si c'est favorisé, ça pourra amener des améliorations d'efficacité et de productivité.
C'est une source de productivité, absolument. C'est une source d'innovation, vous prétendez, lors de ces contacts informels.
Absolument. Il y a plusieurs... professeur, il y a surtout un Cornell University, Franklin Becker, qui a fondé l'école de Facilities Management, qui fait des études sur le comportement, la place de travail, et il aide beaucoup de fabricants de meubles de bureaux de développer des produits ou d'introduire des concepts pour favoriser l'innovation communication. Absolument.
Et cette notion de travail, vous me disiez avant de préparer cette émission que le travail, son origine est un mot qui exprimait la torture. Est-ce qu'il y a une nouvelle vision? Si nous en avions parlé en disant que même la vie amoureuse souvent se déroule au bureau, donc une grande partie aussi bien de nos sentiments, de nos émotions se passe au bureau. Et comment pensez-vous pouvoir influer sur cet environnement, véritablement créer un deuxième cocon, presque un cocon familial à l'intérieur de l'entreprise?
Bon, ça se manifeste avec ces zones, je dirais, non traditionnelles, les zones pause, les coins de rencontre spontanées, même les bureaux où il y a des espaces ouverts, où il y a des cabines téléphoniques autour et plusieurs autres choses. On voit de plus en plus la présence de meubles, disons, domestiques. Il y a plus de fauteuils, des canapés, il y a certaines sociétés, des gens start-up avec des baby-foot. Et on trouve beaucoup des éléments et malheureusement, on passe plus de temps au bureau, ou on passe plus de temps au travail que jamais dans l'histoire de l'humanité. Cette tendance d'amener des choses confortables, accueillantes, c'est une manifestation de cette mesure, mais c'est aussi de côté de ma profession, c'est une façon d'aider les gens à mieux travailler ou de se sentir à l'aise.
Aménagement d'espace, Clark Elliott, est-ce que vous trouvez maintenant que la plupart des entreprises sont concernées par cette notion d'aménagement de l'espace, du bien-être des collaborateurs, ou est-ce que c'est encore simplement une faible partie du tissu économique qui fait appel à vos connaissances et à celles de vos collègues?
Bon, je dirais malheureusement c'est encore faible. Je ne peux pas dire autrement, mais par contre il y a énormément de sociétés, surtout des sociétés multinationales, qui sont vraiment au courant de bénéfices.
Pourtant, vous dites que l'influence, que les retombées sont quantifiables.
Exactement. Je trouve étonnant que le management de surface bureau, c'est pas discuté dans la salle de conseil une fois par mois. Que la direction décide pas d'une façon proactive d'être sûr que l'environnement de travail soutient leur activité professionnelle.
Mais dans ces activités, elles sont en mutation, donc même plus que profonde, une totale mutation avec les nouvelles technologies. Certains penseurs voudraient même totalement se débarrasser des bâtiments dans lesquels nous travaillons, pour tous les frais, déjà bien sûr, on pense naturellement à l'immobilier, mais au fonctionnement, et avec tous les moyens de télétravail, que chacun puisse rester chez soi et que tout le travail se fasse à distance. Et bien sûr, cela ferait des économies énormes, avec peut-être des conséquences bonne ou mauvaise sur le moral de ses collaborateurs, qu'en pensez-vous?
Bon, là, il y a plusieurs sujets à discuter. Dans tous mes projets, surtout les grands projets, 1 000, 1 500 personnes dans un bâtiment, il y a un côté économie à considérer, et c'est une fête. Là, les gens qui mesurent l'utilisation du bureau, vous payez X centaines de milliers de francs pour surface bureau, l'utilisation mesurée d'une place de travail, la chaise est chaude 35% de temps. Même les gens qui sont sédentaires, administratifs, liés à leur poste de travail, sont en vacances, sont en réunion, sont en pause, et bon, on compte 7 jours par semaine. Alors, la rentabilité des investissements immobiliers, on peut poser des questions. Moi, j'arrive avec tous mes projets, avec une justificative de faire des économies, en même temps faire des environnements de travail dynamiques et en même temps encourager la découverte de nouvelles façons de travailler grâce à toutes ces technologies.
Mais pratiquement, comment vous exprimez-vous dans une entreprise qui voudrait adapter son environnement à sa stratégie commerciale? Est-ce que ça peut être un bouleversement? Est-ce que votre volonté est de faciliter principalement les rapports, les communications entre les collaborateurs?
Bon, en effet, je fais beaucoup de gestion de changement en parallèle avec l'introduction de changements de façon de travailler. Et il y a, c'est curieux et c'est une fête que tout ce qui touche les changements de surface, c'est très personnel. Les gens sont très liés, très attachés à leur place de travail et les changements enchaînent des réactions. Et c'est pas un secret dans notre métier. Quand on fait un déménagement ou on change de bâtiment, les gens souvent sont exagérés avec leur réaction. C'est le déménagement physique qui représente tous les autres changements. Derrière, les changements de chef, changements de technologie, changements de procédure, des rachats, des merges, des acquisitions. La personne aujourd'hui qui a vécu probablement 17 chefs et 3 patrons et 3 sociétés différentes depuis 10 ans, et il n'a pas changé de bureau, potentiellement.
Mais avec ces changements de rapport dans des bureaux beaucoup plus ouverts où les contacts sont aussi plus fréquents, plus rapprochés, je suppose que cela peut être aussi pris pour des cadres d'esprit non pas sclérosé mais un petit peu plus anciens comme des atteintes au pouvoir.
Oui, bon, là il y a deux aspects. Là, il y a, je réponds du côté positif. Je fais beaucoup depuis 2 ans, 3 ans. D'aider les sociétés créées en protocole ou les bonnes règles de vie dans l'espace ouvert. Et ça touche énormément de choses. C'est de bonne utilisation de technologies et aussi le respect pour autrui ou de pas faire des téléconférences dans l'espace ouvert et de fournir des alternatives. L'autre côté, question de comportement de certaines personnes, il y a des gens sans un bureau fermé ou sans un bureau fermé au coin avec un vieux sur les jets d'eau. c'est scandaleux, ils ont pas ça. Et moi, je dis tout simplement au directeur, est-ce que vous mesurez les résultats? Est-ce que vous allez donner des symboles de statut? Ou vous allez vraiment cueillir le vrai bénéfice de cette personne? Qu'est-ce que cette personne apporte à votre société? Et moi, je trouve le raison d'être de l'environnement de travail, c'est de soutenir le vrai activité professionnelle de tout le monde et d'offrir un énorme choix.
Quel est votre plus grand ennemi dans la réorganisation d'un bureau? Pour certains, ça peut être dans un environnement moderne, de la lumière, c'est peut-être le bruit. Quel est le le problème le plus important que vous ayez à résoudre?
Là, il y a plusieurs problèmes à la fois, et ça dépend malheureusement de l'infrastructure physique.
Mais est-ce que le bruit fait partie, puisque nous plaignons toujours du bruit en ville qui est de plus en plus important, est-ce que c'est aussi un grave problème dans les entreprises?
C'est clair, les gens sont sensibles à trois choses, et c'est toujours les mêmes, et en priorité, c'est lumière, qualité de lumière, et en deuxième position, c'est bruit. Bruit, dérangement, des choses qui sont des distractions pour couper la concentration.
Et parmi les nouvelles exigences que l'on a dans notre époque, qui sont donc la mobilité, la flexibilité, comment le rendre pratique en même temps dans votre environnement, pour lequel je suppose que vous prêchez un environnement toujours plus ouvert?
Oui, moi je prêche des environnements plus ouverts, mais ça ne veut pas dire pas protéger. Quand on peut offrir des zones d'isolement, des zones de concentration, des zones où on peut faire des diverses activités. Et en même temps, c'est là où j'encourage les gens de découvrir les possibilités positives des technologies. Qu'on puisse faire un rapport mensuel dans un coin à côté, ou même utiliser la cafétéria en dehors des heures de repas. On peut s'isoler à la maison grâce au Internet. On peut faire plein de choses. Mais j'encourage mes clients toujours de garder en tête la vraie raison d'être des infrastructures bureaux. Les gens sont toujours attirés par cette maison mère ou les symboles de ce que c'est. Il y aura toujours besoin de salles de conférence, réunions, coin pause. Le Fontainebleau, c'est une énorme source de collaboration, comme je mentionnais tout à l'heure. Tout ça, c'est un ensemble. Il y a des morceaux de puzzle à coller ensemble pour créer un environnement de travail performant.
Je me souviens avoir visité il y a une vingtaine d'années une entreprise connue près de Fribourg qui avait banni tout contact écrit de vrai papier pour remplacer par des messages aussi bien d'un bureau à l'autre, d'un étage à l'autre. Est-ce que ça, je crois, c'était en même temps dans cette utopie d'une technologie qui allait nous faciliter la vie d'une manière extraordinaire? Est-ce que ces tendances sont toujours maintenant, non pas à la mode, en vigueur, ou est-ce que l'on revient où on essaierait de pousser à plus de contacts personnels?
Bon, papier personnel, personnel et papier. Il y a deux sujets là. C'est le concept, le rêve de bureau sans papier. On discute ça depuis 20 ans, c'est clair. Les statistiques montrent qu'on utilise plus de papier que jamais, mais on garde le papier moins longtemps qu'il y a 20 ans. Par contre, l'être humain est toujours attaché au papier ou de lire quelque chose, de prendre des notes, écrire à la main, etc. Mais le contact en direct est remarquable et favorisé par tous les consultants dans le développement organisationnel et ressources humaines constatent le bénéfice du contact en direct comme but primordial.
Donc c'est peut-être une banalité, mais l'aménagement de cet environnement permet un accroissement de la productivité, permet peut-être aussi la résolution des conflits ou éviter qu'ils éclatent. Tout commence donc, même avec, vous nous l'avez dit tout à l'heure, avec l'innovation qui se passe auprès de la machine à café ou de la fontaine à eau. C'est votre principal, comment dirais-je, apport dans ce domaine, avant de parler bien sûr des aménagements techniques.
Oui, c'est le début, c'est un aspect. Et là, avec ma formation en architecture et en psychologie sociale, je peux pas faire un projet sans une approche holistique. Alors, le côté pause, le côté collaboration, c'est un élément, c'est plusieurs éléments, et il y a tout le reste à prendre en charge. Il y a l'intégration de technologies, il y a la performance du bureau, il y a le côté ergonomie du meuble. C'est un énorme casserole, il faut mettre tous les ingrédients.
Et qui permet de favoriser aussi bien non pas que la productivité, mais surtout l'innovation par l'émulation, donc entre ces contacts.
Ah oui, moi je cite, il y a Procter & Gamble qui est très fort ici à Genève. Procter & Gamble a créé un CIO, Chief Innovation Officer, et cette personne mondiale a constaté que le coin pause est devenu le nouveau laboratoire de recherche et développement.
C'est la preuve qu'une entreprise multinationale peut accorder autant d'importance à ce domaine.
Exactement. Et j'encourage la direction, les gens des positions de pouvoir, de réévaluer leurs opinions sur les coins discussion, les coins pause, et aussi dans les zones bureaux. Il y a un exemple, j'ai visité un bâtiment vert récemment en Angleterre où plus que 52% de surface ne sont pas allouées à des personnes attitrées, mais données pour des zones, pour des contacts spontanés, pour s'asseoir, des tables hautes, des tables rondes. Et c'est le siège mondial de cette société où les gens sont dans une espèce de nomadisme interne, mais très très productif.
Donc il ne s'agit pas d'un coin pause réservé aux loisirs, mais il s'agit d'un coin pause dans lequel les collaborateurs peuvent se réunir justement pour trouver des solutions, innover et aussi se trouver en compétition.
Exactement. Et grâce au sans-fil, etc., il peut même consulter des dossiers debout à côté d'une table où on peut mélanger le sucre comme il faut.
Toujours une méthode de bon travail. Clark Elliott, on remercie. Je rappelle que vous pouvez trouver les informations et le site web sur notre site qui est www.genevart.org. Et peut-être avez-vous une adresse à nous signaler, Clark Elliott. Donc c'est www.cbre.ch. Merci.
Merci aussi.